Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Contrairement à mon habitude, je ne commenterai pas tant l'Épître ou l'Évangile aujourd'hui que, pour une fois, la première prière de la messe, c'est-à-dire la collecte. Avez-vous déjà prêté attention, peut-être pas suffisamment, j'avoue ne pas le faire moi-même, à cette première prière que le célébrant présente au Père éternel et qui change à chaque messe, qui est marquée par une tonalité propre en fonction du moment liturgique dans lequel on se trouve, en fonction du saint que l'on honore par la messe. Quasiment toutes ces collectes, très ramassées, c'est d'ailleurs le sens même de ce nom-là, sont des joyaux de théologie qui implorent de Dieu une grâce particulière en fonction du moment liturgique, en fonction de la fête. Or, que nous dit la collecte d'aujourd'hui ? Peut-être, encore une fois, ne l'avez-vous pas eu sous les yeux lorsque je l'ai chanté en latin, mais nous venons en réalité, parce que je ne suis pas le seul à le faire, c'est le sacerdoce commun des fidèles qui s'est exercé par votre coopération, par ce qu'on appelle désormais la participation active des fidèles, à laquelle, dans ce sens-là, je veux bien donner mon concours. Bref, je ferme la parenthèse polémique, vous voyez de quoi je parle. Dans la collecte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve ? Quelque chose de très beau, évidemment. On demande au Seigneur qu'au milieu des vicissitudes de ce monde, nos cœurs soient fixés là où sont les vraies joies. Nous demandons donc à Dieu, le Père éternel, de nous donner que notre cœur soit dans la joie. Et parce que notre Dieu ne nous porte trop d'estime pour se comporter comme un Père Noël, qui est distributeur automatique de grâces, il entend que non seulement nous lui demandions des grâces, mais que nous prêtions notre coopération. Et dans la collecte d'aujourd'hui, pour obtenir cette joie du cœur dont nous supplions que le Seigneur veuille bien nous donner la grâce, eh bien, nous nous mettons à sa disposition. Nous acceptons de porter notre pierre, nous acceptons de donner notre petite contribution. Quelle est-elle cette contribution ? En fait, elle est double. Que nous désirions ce que vous promettez et que nous aimions ce que vous commandez. Voilà la participation que Dieu veut de nous, afin qu'il nous donne d'avoir le cœur dans la joie, afin que sa grâce nous comble pour que nous soyons dans la joie du cœur. Que nous désirions ce que vous promettez, que nous aimions ce que vous commandez. Je me permets de commenter, ce sera les deux parties de cette petite homélie, je me permets de commenter ces deux choses-là, que nous désirions ce que vous promettez. Ce que Jésus promet est trop clair, étant donné l'évangile que nous venons d'entendre, il s'agit évidemment, vous l'avez compris tout de suite, de l'envoi du Saint-Esprit. Nous devons désirer ce que Jésus promet. Il nous promet, parce que Pâques est passé, qu'il est revenu parmi ses apôtres, d'envoyer le Saint-Esprit. La première condition donc pour avoir le cœur dans la joie, c'est de désirer la venue du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous aviez déjà songé à cela. Pas seulement que nous attendions, mais bien que nous désirions. C'est-à-dire que nous n'avons pas à avoir cette conduite de la vache qui, parce que la voie ferrée tremble un peu, se doute que quelque chose va arriver, comme d'habitude, un train, et qu'elle considérera ce train avec son regard torve qu'on lui connaît. Vous savez, les vaches, je les aime bien, mais enfin, elles n'ont pas cette étincelle d'intelligence dans les yeux. Elles ont des yeux qui sont un peu inquiétants parfois. Et lorsque certains fidèles ont les mêmes yeux, je me dis qu'il faut peut-être que j'avance un peu dans mon sermon. Là, nous ne devons pas attendre telle des vaches le train, nous ne devons pas non plus attendre, tel des païens, que le temps s'écoule, que au gré de quelques désirs que nous satisfaisons, bon an, mal an, finalement, la fin de la vie arrive là pour clore définitivement l'existence. Nous sommes des chrétiens et nous devons être des hommes et des femmes de désir. C'est quelque chose de magnifique que se dire que le christianisme n'a rien à voir avec une castration du désir, mais au contraire, qu'il est, par la grâce qui nous est donnée le jour de notre baptême, au contraire, une excitation du désir. Nous autres chrétiens avons une capacité de désirer qui dépasse infiniment la capacité de nos contemporains qui ne sont pas baptisés. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a donné une capacité de désirer le ciel, de désirer d'être dans la communion des trois personnes divines, de désirer devenir des saints. C'est ça qui a été mis dans notre cœur le jour de notre baptême. Voyez donc que nous avons tout l'outillage pour désirer. Seulement, il faut que nous y apportions notre petite contribution humaine, c'est-à-dire que dans ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, où nous sera donné une fois encore en plénitude le Saint-Esprit avec ses sept dons merveilleux, il faut que nous désirions. Êtes-vous, suis-je, dans un vrai désir de ce temps de Pentecôte qui non seulement comptera un jour, le jour même de la Pentecôte, mais l'octave de Pentecôte ? Nous sommes gavés, je crois, par le temps pascal, par cette magnifique octave de Pâques et par le temps qui suit, et nous suivons le cours de ce temps pascal, dégringolant la pente, il faut bien le dire, après avoir essayé de gravir bon an mal an ce chemin difficile et exigeant du carême. Et nous nous laissons couler tranquillement vers la fête de Pentecôte. Heureusement, certains d'entre nous iront au pèlerinage de Chartres, se réveiller au dernier moment pour désirer vraiment recevoir l'Esprit Saint. Mais il n'y a pas besoin d'être pèlerin et de se rendre à Chartres pour exciter ce désir qui est profondément ancré en nous par le baptême. Donc, désirez ce que vous promettez. Il faut que nous désirions. Soyons tout tendus vers ce temps de Pentecôte pour que vraiment la grâce du Saint-Esprit puisse nous être donnée et la joie que nous demandons au Seigneur dès la collecte d'aujourd'hui. La deuxième chose qui nous est demandée, notre deuxième pierre à apporter à l'édifice, coopération à la grâce de Dieu, c'est que nous aimions ce que vous commandez. Or, que nous commande le Seigneur Jésus depuis sa résurrection ? Vous l'avez entendu tout comme moi dans plusieurs textes de la liturgie pascale, il nous commande d'être dans la paix. La paix soit avec vous, dit-il deux fois le premier jour, le jour de la résurrection. La paix soit avec vous, dit-il deux fois une semaine plus tard, le dimanche de Quasimodo, lorsque Thomas est là et qu'il mettra ses mains dans les plaies du Seigneur. Le Seigneur nous commande, c'est étrange, simplement d'être dans la paix. Alors il est bien évident que la paix, la vraie paix, j'entends celle qui est dans les trois personnes divines, qui unit les trois personnes divines de toute éternité, cette immutabilité, cette jouissance absolue, cette disponibilité aux deux autres personnes, cette tranquillité de l'ordre, c'est la définition que saint Augustin donne de la paix, on ne la trouve en plénitude que dans la Trinité. Mais Jésus, qui entend nous la communiquer, nous dit que nous avons nous-mêmes à chercher à être dans la paix. Vous comprenez, cette paix nous est donnée par la Trinité, car il n'y a qu'en elle qu'elle réside pleinement. Néanmoins, nous-mêmes avons à faire en sorte que cette paix puisse faire son fruit en nous, puisse porter son fruit pleinement. Quelles sont les conditions pour que nous puissions accéder à cette paix intérieure ? Quelles sont les conditions ? Bien, en fait, elles sont assez simples. C'est-à-dire, ce qui relève de nous est assez simple. Le Seigneur nous demande simplement un peu de bonne volonté. Et la bonne volonté pour être dans la paix, en quoi cela consiste-t-il ? Premièrement, à cesser de se regarder en permanence pour s'auto-évaluer. Il n'y a pas plus navrant, je crois, il n'y a pas plus troublant que en permanence de s'épouiller l'âme. Je ne dis pas qu'il ne faille jamais faire son examen de conscience. Je dis qu'il faut cesser de se regarder, de dénigrer ses défauts, de contempler ses quelques succès. Il faut sortir de soi. Il n'y aura pas de tranquillité en nous si nous ne nous tournons pas vers les autres, si nous restons comme enclos en nous-mêmes. Première chose donc, cessez de vous regarder le nombril. C'est quand même assez simple. Deuxième chose, donc ne vous affligez pas de vos faiblesses, ne vous laissez pas écraser par vos chutes, très bien. Deuxième chose, il faut, je crois, pour accéder à la vraie paix, cesser de se plonger dans ce permanent bruissement, ce bouillonnement créatural, c'est-à-dire dans toutes ces créatures qui nous entourent, qui captivent nos désirs charnels et qui en permanence nous maintiennent dans un état d'excitation. Il faut, je crois, accéder à une relative, mais une véritable ascèse, un détachement à l'égard des créatures qui nous permettent de devenir un peu plus indifférents à cela. Et il n'y aura pas de paix si nous sommes toujours à la recherche des joies charnelles, à la recherche du profit, à la recherche de la gloire. Laissons donc ces créatures là où elles sont et fixons le regard sur celui qui est notre seul vrai bien, Dieu. Vous voyez, première condition, ne pas s'évaluer sans cesse, arrêter de se regarder le nombril, parce qu'on se désespérerait. Deuxième chose, ne pas tant s'attacher aux créatures que cela, et se lancer dans une certaine ascèse, même dans ce temps pascal, tel est le prix à payer pour vraiment goûter les fruits de Pentecôte. Et puis, je crois, une autre condition que nous donne saint François de Sales, sur lequel il insiste en permanence, à la suite du Seigneur Jésus qui parle à Marthe, cesser de s'empresser dans l'accomplissement de notre devoir d'État. L'avenir du monde, heureusement du reste, ne dépend pas de notre contribution à l'effort de guerre, au sens où nous serions des capitaines responsables de l'avenir de l'humanité. Nous avons à accomplir notre devoir d'État avec zèle et avec sérieux, mais pas avec empressement. Il ne sert à rien de chercher la rentabilité à tout prix, de chercher l'efficacité à tout prix. Cela ne sert de rien et cela nous fait perdre la paix de l'âme, tout en faisant perdre en même temps la paix de l'âme de ceux qui nous sont subordonnés, parce qu'on devient des chefs exécrables à force d'exiger le rendement et rien que le rendement. Et puis, dernière condition, ne pas vivre, c'est-à-dire vouloir vivre l'instant présent. Nous sommes en permanence, petite créature étrange plongée dans le temps, nous sommes en permanence dans un équilibre qui n'est pas confortable entre hier et demain. Mais mes frères, hier n'est plus. Hier n'est plus. Alors à quoi bon se lamenter? À quoi bon se faire ronger par le remords parce que nous aurions mal agi? Parce que à quoi bon se complaire également à l'inverse dans le passé et être toujours dans une certaine nostalgie parce que c'était mieux avant? Voilà, je crois qu'il y a là un problème que le Seigneur Jésus voudrait résoudre rapidement en nous disant « Celui qui a mis la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière ». Ou en disant encore que le passé relève, pour les torts que nous aurions causés dans le passé, de la miséricorde de Dieu. Abandonnons le passé, il ne sert à rien de traîner le passé. Ne soyons pas non plus totalement fixés sur l'avenir, parce que l'avenir n'est pas encore. Demain n'est pas encore, alors à quoi bon les plans sur la comète? Voici ce qu'en dit Jésus, tu es fou, cette nuit même on va te reprendre ta vie. Avec cet homme qui veut construire des greniers toujours plus grands pour y enfouir tous ses bénéfices et enfin jouir du produit de son travail. Dieu lui dit, tu es fou, laisse tomber demain. Ne vous inquiétez pas de savoir, dit-il encore ailleurs, de quoi vous serez, vous allez vous nourrir, de quoi vous allez vous vêtir. Tout cela vous sera donné par surcroît. Cessez de vous inquiéter. À quoi sert de vivre dans une inquiétude perpétuelle à l'égard de demain? À l'égard du jugement ultime, parce que certains d'entre nous, je le sais, tremblent de cela. Est-ce que nous avons à craindre quoi que ce soit d'un maître bon, à partir du moment où nous nous mettons à sa disposition? Il nous communique cette paix trinitaire à partir du moment où nous voulons bien écarter quelques obstacles. Je reprends la liste et je vous laisse méditer sur ces quelques points que je vous ai donnés ce matin, avant d'offrir le Saint-Sacrifice, qui est le sacrifice pacificateur par excellence. Ce que vous demande le Seigneur, c'est premièrement de cesser de vous regarder le nombril, de vous évaluer sans cesse, de savoir si vous êtes bon ou mauvais. Il faut vous lancer dans l'action. La deuxième chose, c'est une relative ascèse pour vous arracher, pour nous arracher aux créatures et au bruissement, à l'agitation perpétuelle. La troisième condition, c'est pas d'empressement dans le devoir d'État, pas de recherche d'efficacité. C'est Dieu qui donne la victoire. Les hommes bataillent, mais tranquillement. Et puis, la quatrième condition, c'est vouloir vivre de l'instant présent. S'arracher à cette perpétuelle considération de ce passé qui ne passe pas et de cet avenir qui nous inquiète. Voilà, je demande à la Vierge Marie qui est la première, le premier habitacle du Saint-Esprit après son Fils Jésus, qui est vraiment celle qui a été comblée de grâce, pleine de grâce, c'est-à-dire saturée du Saint-Esprit, et donc en paix, de pouvoir nous communiquer un peu de cette paix. Notre-Dame, Reine de la paix, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.